Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle
François Chaubeau.
Avec lui, nous évoquons le parcours de jeunes gens que l'on dit à la dérive ou en errance. Et il s'agira de la troisième étape dans cette semaine imaginée autour du mot dérive. Ça commence. De quoi sommes-nous par l'inertie rendue spectateur d'une violence qui ôte les mots? Il est possible d'en faire l'expérience dans certains bistrots le matin. Sur les écrans, les chaînes d'information en continu et souvent les bandeaux qui défilent, qui affichent des commentaires sans rapport avec les images vues. Ce qui opère une sorte de montage involontaire et finit par abstraire l'image. Moi, je vois un char sur lequel 1, 2, 3 soldats sont installés et qui traînent derrière eux un charnier, une sorte de chapelet de plusieurs corps que l'on suppose mort. L'atrocité des guerres homériques et le texte de Simone Veil sur ce poème de la force reviennent brutalement en mémoire, tandis que le bandeau renseigne le cours de la bourse ou les résultats de l'Eurovision. Spectacle sans son et spectateur sans les mots. Il est 16h passé de 1 minute, vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Sur le Polaroid du jour apparaît un âne et des objets brillants. Sur le plateau du milieu, vers 16h20, le troisième moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot « dérive ». Après la dérive en mer et la dérive comme procédé littéraire, nous évoquons le parcours de jeunes gens que l'on dit à la dérive ou en errance et les accueils, les accompagnements qui peuvent répondre à ces parcours. Vers 16h50, nous écoutons les poèmes de Charles Reznikoff et puis il sera 17h et nous serons rejoints par les équipes du 5 à 7. Avant toute chose, laissons-nous guider dans la bibliothèque de Marilyn Canto. Elle choisit aujourd'hui un extrait de Plein de vie de John Fante. On écoute.
À chacun de mes retours à la maison, saluer maman a toujours été le plus difficile. Car ma mère était une spécialiste de l'évanouissement. Surtout si je ne l'avais pas vue depuis plus de 3 mois. Quand moins de 3 mois s'étaient écoulés, je pouvais encore contrôler la situation. Car elle se contentait alors de vaciller dangereusement, prête à s'écrouler, ce qui nous donnait le temps de la rattraper avant la chute. Une absence d'un mois ne posait pas le moindre problème. Simplement, elle pleurait quelques instants avant de me soumettre à un feu roulant de questions. Ce jour-là, le cap des 6 mois avait été franchi et l'expérience m'avait appris à ne pas me présenter à elle sans certaines précautions. Ma technique consistait à m'approcher d'elle sur la pointe des pieds, à l'enlacer par derrière, puis à dire tranquillement mon nom en attendant que ses genoux s'affaissent. Autrement, elle s'écriait « Oh, merci mon Dieu !» avant de s'écrouler telle une pierre. Une fois par terre, tout son corps se relâchait comme une masse de mercure et il devenait impossible de la soulever. Après une absurde série de piaffements et de grognements émis par le fils prodigue, elle se relevait seule et s'attelait aussitôt à la préparation d'énormes repas. Maman adorait s'évanouir. Dans ce domaine, elle était devenue une artiste consommée. Elle avait seulement besoin d'un bon prétexte. Maman aimait aussi mourir. Une fois ou deux l'an, vers Noël, les télégrammes arrivaient pour nous annoncer qu'une fois encore, maman mourait. Néanmoins, nous ne pouvions risquer que pour une fois, elle ne fût vraiment à l'agonie. Nous rappliquions dardard. De tout le Far West, nous nous précipitions vers Saint Juan et son chevet. Elle continuait de mourir pendant 2 heures. Une pile de soucoupes semblait s'entrechoquer dans sa gorge. Elle nous montrait le blanc de ses yeux et nous appelait l'un après l'autre au moment de pénétrer dans la vallée des ombres. Brusquement, elle se sentait beaucoup mieux, quittait son lit de mort et bondissait vers ses fourneaux pour préparer un énorme dîner de raviolis. Quand je suis entrée dans la cuisine, elle s'activait devant le poêle en me tournant le dos. Je me suis approchée à pas de loup, mais elle a deviné ma présence. Elle s'est lentement retournée, une cuillère en bois à la main, une sorte de nausée l'a submergée, comme si elle se désincarnait subitement. L'ascenseur descendait en chute libre, l'instant de vertige absolu avant de sauter d'une grande hauteur. Ses yeux ont roulé dans leurs orbites, le sang s'est brusquement retiré de son visage blême. Toute force a abandonné ses doigts, la cuillère en bois a frappé le sol. « Johnny, oh merci mon Dieu !» Je me suis précipitée, elle est tombée dans mes bras. Comme des nuages blancs, ses cheveux ont touché mon épaule. J'ai senti ses mains contre mon cou, mais elle n'a pas perdu conscience. Elle semblait avoir une crise cardiaque. Sa respiration rauque et haletante, les frissons qui agitaient son corps menu m'ont dit que c'était le cœur. Avec précaution, je l'ai portée jusqu'à une chaise, près de la table de la cuisine. Elle s'est adossée, bouche ouverte, un sourire courageux aux lèvres. Son bras gauche pendait vers le sol. J'ai remarqué qu'elle essayait vainement de le lever. « De l'eau, s'il te plaît, de l'eau. » Je lui ai apporté un verre que j'ai approché de ses lèvres. Elle a bu une ou deux petites gorgées. Elle était déjà loin de tout, sans force, à quelques secondes seulement de l'autre monde.
Marilyn Canto, on entend ici un extrait de « Plein de vie ». C'est un roman traduit de John Fante. Qu'est-ce qu'il raconte, ce roman ?
Il raconte sa vie aussi. C'est un livre, encore une fois, un peu autobiographique. Mais tous les livres de John Fante sont toujours un peu autobiographiques. Et il va devenir père. Et c'est ce passage, justement, entre sa vie d'avant et lui qui va... Parce qu'il a des rapports compliqués, complexes avec sa famille. Il a toujours eu des rapports compliqués avec son père, John Fante. Et ça va être ce passage de relais, lui qui devient père.
Pourquoi vous avez choisi cet extrait de la relation, alors là, plutôt avec la mère, si on comprend bien, une mère qui fait semblant de tomber malade, qui fait semblant de mourir, qui les appelle, lui et ses frères, à ses chevets. Ouais. Pourquoi ce choix ?
Parce que je trouve qu'il y a tout l'humour et toute le phrasé, il a une façon de raconter les choses, John Fante, qui met toujours un peu à distance, et en même temps, on est tout le temps, on est dans les choses, et à la fois, il se moque de lui, par exemple, dans ce passage-là, il dit le fils prodigue qui pousse des grognements, et ça, cette mère, au fond, on sent plein d'amour pour cette mère, et à la fois, tout ce qu'il peut y avoir de ridicule. Pour moi, c'est un très, très grand auteur, John Fante, ça a été une vraie découverte. Alors, moi, je l'ai lu récemment, celui-là, j'avais lu les autres avant Bandini, ça, vraiment, il faut lire tous ses livres. On dira jamais assez à quel point c'est un grand auteur américain. Voilà, j'ai choisi ce passage-là parce que je trouve qu'il montre bien toute la théâtralité qu'il y avait dans cette famille et comment il arrive à dépeindre ça, c'est les excès. Parce que c'est aussi un grand écrivain de l'excès, vraiment. Il a été excessif et tous ses livres parlent de ça, de ce père excessif qui était alcoolique et de lui aussi qu'il a été. Il a été assez excessif aussi.
Vous disiez lundi que vous avez lu pas tout Dostoïevski, mais une grosse partie de Dostoïevski dès lors que vous l'avez découvert. Mmh. Vous avez l'air de dire un peu pareil pour John Fante, c'est-à-dire que vous êtes ce genre de lectrice qui entame une œuvre pour quasiment la terminer, ou la suivre en tout cas.
Mais oui, parce que ça me procure énormément de plaisir. Mais vraiment pour ça, pour le plaisir. C'est-à-dire que quand avant John Fante, j'avais découvert un autre auteur qui s'appelle Brötigam, Richard Brötigam. Et je suis passée de Brötigam à John Fante, même si c'est des auteurs différents. C'est, pour moi, c'est des grands auteurs américains, parce que justement, ils ont cette espèce d'humour et de férocité. Et oui, John Fante, j'ai commencé par Bandini. Et là, celui-là, je ne l'ai pas lu récemment, mais cette année, j'en ai lu un, hein, par exemple, de John Fante, qui est La correspondance avec Mencken, je ne sais pas comment il s'appelle, qui sont les lettres qu'il envoie à un journaliste écrivain qu'il adore. Il lui écrit régulièrement, mais très vite, très jeune. Et il a déjà ce ton, quoi, il y a déjà cet humour.
Qu'est-ce qui se passe dans le plaisir que vous avez à lire un auteur sur la longueur ? Comment est-ce que vous décririez ça ?
Mais parce que ça m'aide à vivre, parce que ça me fait du bien. Vraiment, c'est avoir des nouvelles de quelqu'un que j'aimerais bien. Vraiment, c'est ça, quoi. Voilà, John Fante, il m'en reste deux, trois que j'ai pas lues. Je suis ravie, il m'en reste. Il paraît qu'il y a son fils qui écrit. Alors, c'est bien, on va pouvoir aussi lire son fils. Voilà, c'est une vision du monde qui m'est nécessaire. C'est une sensibilité qui m'est nécessaire, qui m'aide à vivre.
Quelle musique vous voulez mettre après ça ?
On va mettre Les Zombies, voilà. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had said, the color.
someone told me about her, what could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there.
Demain, la comédienne Marilyn Canto poursuit le déballage de sa bibliothèque avec un extrait d'Histoire d'une vie d'Aaron Appelfeld, mais pour l'instant, c'est le Polaroid. Il marche à côté de l'âne où chacun de ses pas est assuré, devancé, accompagné par un bâton. L'animal est tenu au bout d'une cordelette usée. Lui porte toujours la même chemise, blanche, impeccable, boutonnée au ras du cou. Les deux s'arrangent sur un rythme commun. Il passe à la même heure chaque jour. Des objets tombent de chaque côté du tapis que l'homme sangle sur l'âne. C'est épais en laine bouillie, grise et blanche. Les objets en se cognant font des bruits métalliques. Une musique qui vaut pour signal. Dès qu'il entre dans la vieille ville où se referment sur lui les maisons, les bâtiments, les porches, les portes, ce bruit résonne tant et tant que les enfants sortent par dizaines, sautent des toits, déboulent d'un virage plongé dans l'ombre et les voilà en grappe à caresser l'âne et toucher du regard les objets accrochés au tapis. L'homme chante toujours la même chose, une comptine qui raconte le temps où une vieille femme fabriquait à la sortie du village, avant que les plaines n'avalent la lumière en kilomètres, des caramels de toutes les couleurs dans un chaudron immense. Les enfants reprennent le refrain et repartent en hurlant, réclamant là où les pièces nécessaires pour acquérir les objets qu'ils ont aimé toucher et voir. Et c'est le moment que l'âne préfère. Un petit répit. Seul avec son maître. Le temps que la marmaille négocie un bout de bourse et revienne en courant le décharger de quelques kilos, la ville est à eux deux. Il fait sonner son attirail et son maître passe doucement une main aimante sur le chanfrein plein de poussière. Il ferme les deux yeux.
As a swallow in the sun, as a sparrow in the sun.
Pour ce Polaroid, Miss Chanel choisissait le titre A Swallow in the Sun de Hills. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h passé de 18 minutes, c'est la deuxième partie de notre émission et le troisième moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot « dérive ». Lundi, nous écoutions trois navigateurs faire le récit de moments de dérive imposés par des avaries techniques en pleine mer. Hier, nous évoquions avec Didier Da Silva l'écriture par la dérive, dans la dérive, pour un livre voguant au fleuve des coïncidences. Aujourd'hui, nous regardons avec attention le parcours de jeunes gens que l'on dit à la dérive. Nous avons évoqué l'éloignement d'un cap fixé en écriture et en navigation. Ici, il s'agirait de l'éloignement progressif d'une norme sociale, mais dictée par qui ? D'un éloignement de soi, mais entraîné par quoi ? La littérature en sciences humaines sociales parle plus volontiers de « jeunes en errance ». Ce presque beau mot regroupe des réalités évidemment plurielles qui sont rendues visibles au cours des années 80 en France et nourri de plusieurs ascendances culturelles. Citons par exemple les Van der Vogel allemands, la Beat Generation, les Beatniks, les Travelers, les Punks, mais sont aussi le reflet de désarrois individuels et du dysfonctionnement ou de l'absence d'adaptation de la psychiatrie, de la justice, du suivi des mineurs. François Chaubeau, vous travaillez sur ces profils de jeunes en errance depuis bien des années maintenant. Vous êtes rédacteur en chef de la revue VST, revue du champ social et de la santé mentale des CMEA, et vous êtes animateur du réseau Jeunes en errance, justement. On peut citer par exemple les deux ouvrages que j'ai sous les yeux, Les Nomades du Vide, c'était paru aux éditions Actes Sud, et Intervenir auprès des jeunes en errance, paru aux éditions La Découverte. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Il y a tout un mouvement qui était importé d'Angleterre en fait par les voyageurs anglais, les travelers comme on dit quoi. Puis ben moi j'ai connu ce mouvement là dans cette période là quoi, quand c'est les Anglais qui descendaient en France pour faire tourner leur sound system parce qu'en Angleterre ils avaient eu des lois qui les empêchaient de faire ce qu'ils voulaient faire là-bas quoi, tout simplement quoi. Et puis j'ai trouvé ça cool on va dire quoi. Et vu que je suis né dans une communauté de hippies. Bah, j'ai retrouvé un peu ce truc-là avec mes parents, que j'ai vécu avec mes parents quand j'étais petit, Tipeee, tout ça, festival et compagnie, quoi. Et ça m'a bien plu, quoi. Un mode de vie utopique, on va dire, quoi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que c'est pas forcément possible comme on l'imaginait quand on était jeune, mais après, il y a toujours des alternatives. Faut trouver un juste milieu. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vis ici, en camion, mais à côté de ça, je travaille. Tous les matins, je me lève à 6h, je vais faire mon placo à droite, à gauche, voilà quoi. Et à côté de ça aussi, on a monté un label de musique, enfin de la musique, s'exprimer.
François Chaubeau, on choisit d'entendre pour commencer cet extrait d'un reportage de Pauline Mocor qui va interviewer des membres d'une communauté rennaise, c'était il y a 4 ans. C'est une interview qui se termine sur l'évocation de la musique et ce n'est pas un hasard et qui commence d'ailleurs par l'évocation de la musique. Je parle en introduction d'ascendance culturelle. Quelle est l'histoire d'une certaine manière, l'histoire culturelle de ces jeunes en errance ?
L'histoire culturelle de ces jeunes, c'est une naissance sociale, sur la scène sociale visible, extérieure française, à la fin des années 80, début des années 90, une visibilité assez microscopique à l'époque sur les marges des festivals de Bourges, La Rochelle, quelques autres. Et puis peu à peu, une très très forte visibilité sociale partout et tout le temps. Histoire culturelle aussi, ça a été pendant pas mal d'années, côté culture et musique, on a une accroche forte avec la musique, avec le rock punk. Et puis petit à petit, une liaison avec les Travelers, ce qui fait que la techno a été intégrée dans un mélange un peu conflictuel par moment. Puis on en est aujourd'hui avec un peu tout du reggae, bon, culturellement, musicalement, du reggae, du punk, de la techno et plein d'autres choses.
Vous racontez dans les différents livres que vous écrivez que finalement c'est une jeunesse que vous rencontrez à l'occasion de festivals musicaux au tout début des années 90. Quelle est la rencontre qui s'opère entre eux et vous d'une certaine manière ?
Alors, début des années 90, moi j'ai dans mon institution la responsabilité de mettre sur pied une mission nationale sur des nouvelles questions de jeunesse, une mission recherche, expérimentation, avec un pied dans la pratique de terrain et un pied dans la recherche en sociaux, ethno. Je fais le tour des actions de mon association, les CMEA, en particulier des actions où il y a des jeunes. Je vais au Festival de Bourges et je découvre, moi qui croyais bien connaître les questions de jeunesse, je découvre une population de jeunes que je ne connaissais pas du tout, qui est sur les marges du festival, qui est sur les marges de nos actions, et déjà au début des années 90, qui sont avec un look un peu curieux, punk ou encore un peu baba à l'époque. Quelques chiens, les sacs à dos, la bière, la défonce, et puis tout un discours sur la rupture. Et je me suis dit, tiens, il y a à creuser là, d'autant plus que personne travaillait là-dessus, on trouvait rien en base de données, et le démarrage s'est fait comme ça. Et le démarrage s'est fait avec des bonnes vieilles techniques de travail de rue et d'observation participante, en allant se poser à quelques-uns au milieu des groupes de punk, au milieu des groupes de jeunes, pour écouter, comprendre... Et voilà.
Là, vous entreprenez un travail qu'on pourrait dire de l'ordre de la catégorisation, même si vous vous en méfiez immédiatement ensuite dans la façon dont vous écrivez et dont vous rendez compte de ce travail. Pourquoi pourtant c'est important au départ de faire ça ?
C'est important au départ de se dire de qui s'agit-il, parce qu'il fallait bien trouver un nom à ces jeunes, à cette population. La notion d'errance m'est venue assez vite. Eux, ils disaient « on est des zonards ». On est des zonards, on vit la zone. Notion d'errance m'est venue assez vite quand on s'est rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup d'aléatoires dans leurs déplacements, dans leurs comportements. Du mauvais temps, une embrouille entre eux, un problème relationnel avec des institutions environnantes, et pof, ça y est, ils partaient ailleurs, en laissant des affaires sur place, même c'est pas grave, on s'en va. Il y avait une notion de fuite permanente. Et quand on se donnait rendez-vous d'un festival à l'autre, on voyait jamais ceux qui nous avaient donné rendez-vous, on en voyait toujours d'autres qu'on n'attendait pas. Donc la notion d'errance était bien vue, je trouve. Après, elle a été utilisée par beaucoup d'autres chercheurs, beaucoup d'autres auteurs, avec l'errance immobile, l'errance transfrontalière, l'errance psychique, etc. etc. Bon, mais je continue à penser que c'est assez intéressant comme terme pour les caractériser, cette notion d'errance. Même si aujourd'hui, les nouvelles générations de zonards bougent moins qu'à l'époque. Mais bon.
Qu'est-ce qui vous apparaît à ce moment-là, justement, quand vous prenez le temps d'être posé au milieu d'eux, de les écouter, de les voir vivre et éventuellement, dans le meilleur des cas, d'obtenir quelques récits de vie, quelques bribes de leur parcours ? Qu'est-ce qui apparaît, par exemple, en termes de situation familiale passée, en termes d'usage de drogue, en termes, là, on l'a dit, décrit assez brièvement, mais d'usage culturel ? Qu'est-ce qui est fort comme critère ?
Alors, il apparaît rapidement, ce qui a été confirmé bien des fois depuis, des malheurs d'enfance ou des malheurs d'adolescence qui ont été plus ou moins pris en charge par la protection de l'enfance. Quand ils ont été pris en charge, qui ont été pris en charge de façon pas franchement adaptée, c'est des gamins qui ont été pour beaucoup baladés de placement en placement et assez déstructurés par ces ruptures de placement successifs. Il apparaît des difficultés parentales initiales, des couples parentaux dissociés à plus de 50%. Bon, beaucoup de choses de ce genre-là. Il apparaît aussi que ce ne sont pas directement les enfants de la misère, en ce sens où ils ont des frères et des sœurs, mais leurs frères et leurs sœurs sont entrés dans le circuit de vie sociale de leurs parents. Eux sont un peu particuliers dans la fratrie et sont partis en dérive. Et ça devient à ce moment-là évidemment intéressant de se demander pourquoi celui-là et pas les autres. Et puis ce qui apparaît aussi, c'est très très vite la discordance très importante entre les grandes affirmations permanentes « j'ai choisi cette vie-là » et la façon de conduire leur vie à base de défonce, à base de grande précarité, à base de très peu de relations sociales approfondies. Il y a visiblement une très grande souffrance qui est habillée habillée et dissimulée par la revendication d'être comme ça.
La revendication, elle est d'ordre politique, elle est d'ordre apolitique mais social, elle est de quel ordre ?
La revendication, elle est avancée politiquement. Je ne voulais pas de cette société-là.
C'est ce qui vous a envoyé en premier ?
Oui. Beaucoup, beaucoup. Mais quand on, dans ce cas-là, on va chercher les constructions d'alternatives sociales et on ne les trouve pas. On ne les a jamais trouvées. On les trouve sur les marges pour ceux qui vont le moins mal. Justement, le témoignage précédent, l'histoire des travelers, l'histoire des autonomies alternatives. Mais l'homme qui raconte cette vie-là, tout à fait structuré, équilibré, épanoui et tranquille dans sa peau. Ce qui est très différent de jeunes qui ont été fracassés dans leur enfance et qui se retrouvent en dérive totale à 16-18 ans.
Quelle est la part de l'usage des drogues ? Vous dites on les trouve et la défonce est un quasiment mode de vie. Quelle drogue, à quelle hauteur et dans quelle mesure ça a évolué depuis 25 ans que vous les suivez ?
Alors, la défonce, c'est indispensable pour supporter. Faut pas la considérer comme un plaisir ou comme un choix sur lequel on peut revenir d'un claquement de doigts en disant « allez, j'arrête d'en prendre ».
C'est leur discours, ça, ou c'est le vôtre ?
Non, c'est mon discours.
Et le leur ?
Le leur, c'est quand ils parlent de l'alcool, mais l'alcool, c'est pas de la drogue, ça fait pas de mal. L'alcool, c'est pour supporter le froid la nuit. Les acides, c'est pour se marrer un peu. Bon, parler des opiacés, c'est beaucoup plus dur, parce que là, tout le monde sait que ça rigole pas et quand on en prend, on n'a pas d'autre choix que de continuer à en prendre. Donc, il n'y a pas beaucoup de discours de plaisir sur les drogues. Il y en a un peu quand ils prennent des produits à caractère festif pour aller en fête ou en festival. Mais dans le quotidien, ils prennent des produits pour s'anesthésier, pour être assommé. Et c'est pas du tout rigolo, mais c'est pour supporter.
Les jeunes des années 90 que vous rencontrez au Festival de Bourges ou à La Rochelle, ils prennent la même chose et en même quantité que ceux que vous voyez aujourd'hui ?
Ça allait plus. Pour un jeune qui entrait en errance, ça allait assez lentement. Ça prenait quelques années pour aller vers les produits qui cognent vraiment, pour aller vers les opiacés, pour aller vers les grosses consommations de sirop qu'il y avait à l'époque aussi, ou les mélanges avec des cachets. Ça commençait pendant 2-3 ans avec bière, shit et 2-3 petites bricoles. Aujourd'hui, très très vite, mais parce que les petits chimistes ont bien travaillé depuis 25 ans, il y a des produits disponibles. Très très vite, il y a tellement de mallettes que la solution pour évacuer le mallette, c'est de se défoncer. Et avec des associations, alors parfois des associations, du mélange de tout qui fait des comportements paradoxaux, extrêmes. Et parfois, selon la période, je prends tel produit, ça va vraiment pas, je vais m'anesthésier, ça va mieux, je vais prendre du festif. J'essaye de décrocher un peu, je vais prendre un peu de substitution et je repars pour un tour, ainsi de suite. Il y a des experts en utilisation du produit articulés à leur façon de se sentir à un moment donné.
À ce moment-là, au milieu des années 90, lorsque vous commencez à avoir une sorte de vision d'ensemble, aussi parce que c'est une population qui est manifeste et rendue visible dans l'espace social, à combien on évalue, entre guillemets, les jeunes en errance ou les jeunes à la dérive ? Quand on dit ces jeunes-là, est-ce qu'on est d'accord qu'on dit qu'ils sont en dehors de toute institutionnalisation de la prise en charge des mineurs ou des jeunes adultes ?
Non,
pas forcément.
Non. Alors, quantification et prise en charge. Quantification, on est bien embêté pour les chiffrer, parce que l'errance n'étant pas définie très clairement, c'est pas une catégorie statistique. Il y a des statistiques qui tiennent debout en France sur le chiffrage des SDF, par tranche d'âge, etc. Bon, elles sont fiables. Là, on est dans du pifomètre, on est dans de l'évaluation professionnelle. On en est à... Alors, c'est pas bien difficile, l'évaluation professionnelle, c'est de se dire entre collègues, dans ta ville, il y en a combien l'hiver ? Encore faut-il s'entendre sur de qui on parle, mais bon, si on parle de la zone dérive, punk, revendiquant la situation, les squatteurs un peu malheureux, bon, on s'entend à peu près, et on arrive à aller plusieurs dizaines de milliers en France.
Aujourd'hui.
Après, est-ce qu'ils sont en relation avec les institutions ? Ils sont en relation, beaucoup d'entre eux sont en relation avec des institutions qu'on appelle des structures de travail à très bas seuil d'exigence. Des équipes de rue ou des structures qui font de l'accueil de jour, extrêmement tolérants et n'exigeant pas de la part de ces jeunes, de montrer patte blanche, de présenter un très beau projet d'insertion parfaitement ficelé et de déclarer que ça y est, demain, ils vont se mettre au travail et prendre un logement. Ce qui est radicalement impossible pour eux, ils en sont loin.
Et on
donc,
peut pas dire
donc il y a des liens institutionnels. Mais par contre, c'est toujours très difficile de les faire entrer dans des dispositifs d'insertion normalisés qui tapent beaucoup trop haut et qui sont beaucoup trop exigeants vis-à-vis de ce qu'ils peuvent produire.
Mais on ne peut pas dire, pour du coup articuler à ce que vous venez d'affirmer là, que le territoire français soit maillé de structures d'accueil à faible taux d'exigence, comme on dit. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont dans chacune des villes des possibilités d'avoir des accueils au bas seuil d'exigence ?
Dans un peu, on peut se dire que grosso modo, dans à peu près chaque grande ville et ville moyenne, je ne parle pas des cités de périphérie urbaine, hein, les villes moyennes de région, on peut dire qu'il y a une structure qui est attentive à ces jeunes-là.
Quand même.
Une. Parfois zéro, parfois plus. Mais il y a à peu près. Quand je dis structure attentive, ça ne veut pas dire structure complètement dédiée à ces jeunes. Mais une structure où des professionnels font attention à ces jeunes-là. Voilà.
On pourrait faire mieux. Depuis quand tu as un mode de vie nomade ?
Depuis l'âge de 20 ans.
Donc depuis 15 ans ?
Voilà. J'ai toujours aimé partir. Et ouais, j'aime bien beaucoup voyager, beaucoup d'amis un peu partout. Et... quand il me manque trop, je vais les voir. Ça fait que 3 ou 4 ans que je vis plus dans des lieux comme ça, quoi. Parce que quand je vais vraiment sur la route, parce que pour l'instant, là, je vis plus sur la route, vu que j'ai un pied-à-terre, j'ai un atelier, j'ai une petite maison en Espagne. Mais pendant 10 ans, en fait, on vivait dans les bois, sur des parkings de supermarché, des terrains vagues. Et petit à petit, ça s'est plus dirigé vers des lieux... des lieux, soit des squats, soit des lieux loués comme ici, quoi.
Mais parce que, en fait, dans le choix de vie nomade, de vie en communauté, on mise beaucoup sur, sur les autres.
Depuis que je suis là, peut-être, mais je me sens assez indépendant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup vécu tout seul en camion et j'ai pas trop misé sur les autres. Il n'y a que depuis que j'ai atterri dans ce lieu qu'il y a beaucoup plus une dynamique de groupe, en fait.
François Chaubeau, on entend ici un deuxième extrait du même documentaire par Pauline Mocor, qui interroge toujours les mêmes personnes de cette communauté rennaise. Et il est question de la sédentarisation, phénomène que vous décrivez dans les différents livres que vous avez écrits à ce propos. Est-ce que c'est un phénomène qui arrive toujours dans le parcours de ces jeunes-là, aux alentours de là, on entend 35-40 ans ?
Ouais. Allez, un toujours à 90%. Hein. À un moment donné, la fatigue vient. La fatigue corporelle, la fatigue psychologique, le constat terrible de s'être enfermé dans une affirmation qui tenait pas, d'avoir raté des choses, l'envie d'être en couple, l'envie de faire des mômes, l'envie de se stabiliser. Moi, j'ai appelé ces dynamiques-là des stabilisations marginales, parce qu'elles sont sur les marges de la société instituée, elles sont sur les marges des dispositifs d'accompagnement, elles sont sur les marges d'habitat même. C'est des stabilisations qui se font en zone rurale, plutôt dans des zones rurales qui ont été abandonnées, ou dans des périphéries urbaines où il n'y a pas grand monde. Il y a actuellement des stabilisations qui se font sur des marges de friches culturelles. Sur des marges. C'est un besoin de s'arrêter, c'est un besoin de se poser. Le problème, c'est se poser dans quelles conditions ? Se poser avec un RSA, une dépendance aux toxiques, un ou deux virus, et puis des pertes cognitives, parce qu'il y a des défonces qui produisent des pertes cognitives. C'est se stabiliser, mais dans un statut d'assisté social à vie. D'autres D'autres se sont pas amochés autant. D'autres sont entrés en errance ou en dérive de en étant plus âgés. L'homme de 35 ans qu'on vient d'entendre dit « j'ai commencé à 20 ans ».
C'est tard.
C'est tard. Ça veut dire qu'il avait déjà appris plein de choses de la vie sociale, qui peut remobiliser. D'autres n'ont rien appris, ne peuvent pas remobiliser et ils sont complètement enfermés.
D'ailleurs, il le dit, il parle de la façon dont il a organisé et finalement choisi les moments de solitude, les moments de recours à l'autre, alors que ce que vous décrivez aussi est une errance du lien, est une errance de la capacité à se mettre en discussion, en relation affective
c'est
avec
une
autrui.
Une errance du lien à soi-même, c'est Olivier Douville, un psychanalyste qui a beaucoup travaillé et proposé ce terme-là, errance de lien à soi-même, errance de lien aux autres, tout à fait. Et la logique absurde et parfaitement rationnelle pour survivre dans cette errance de lien-là, c'est de partir et de bouger tout en affirmant qu'on est heureux et qu'on s'épanouit.
Parce que c'est une fuite qui répond à quoi ? J'ai apporté quelques pistes de réflexion dans l'introduction, à savoir une sorte d'éloignement de soi, d'éloignement d'une norme parce qu'elle opprime, parce qu'elle est dictée par autrui, parce qu'elle est dictée par le parent. À quoi répond cette fuite ?
Si c'est pour ceux pour qui c'est un éloignement volontaire de la norme sociale, et qui sont en capacité de construire, c'est tout à fait intéressant, tout à fait constructif. Ils ne sont pas en errance. C'est ceux qui sont leaders des alternatives de squat actuellement. Ils vont bien à leur façon.
Ils inventent, en fait.
Voilà, ils inventent. Ils ne sont pas dans ma logique à moi d'insertion, mais ça va, ils construisent. Être dans la rupture permanente, être dans la fuite de soi, être dans la défense pour survivre, il y a beau l'habiller de paroles sociales ou politiques, c'est une fuite d'un vide psychologique terrifiant, ou d'un déséquilibre, ou d'une construction psychologique tellement bancale qu'elle est insupportable.
C'est toi !
T'as quel âge, toi ?
25.
T'as 25 ans. Donc t'es accessible au foyer Amli, Blida et tout ça. Ah oui, merde, ça aussi c'est le problème.
T'as les chiens, t'es dans la merde.
C'est un choix.
Moi c'est clair, je préfère rester crevé dehors avec mes chiens que de les laisser.
Tu donnes un passeport.
Regarde, à Nancy, il y a un foyer, aussi qu'il y a 15 places et ils acceptent les chiens dans les chambres. Il n'y a pas d'éducateur, il y a juste un veilleur de nuit là-bas. Juste un veilleur qui
te demande. Deux pots de
vie, ils ont très vrai. T'as vu dans quoi ils dorment, les chiens ? Dans un sous-sol, c'est insalubre. Ils ont même pas de lumière, ça pue la pisse de chat. Non, je suis désolé, mon chien, il dort pas là-dedans. Bah ouais, moi, c'est mon enfant, c'est mon pote, c'est tout ce que. C'est tout mon chien. C'est mon meilleur pote, mon chien. Je m'en fous, t'as vu, je vis très bien de la Manche. Je me fais un SMIC à la Manche par mois.
Non, mais la Manche, ça marche, y'a pas de problème, je suis d'accord.
Le seul inconvénient, c'est que je dors dans une tente le soir. Autrement, j'ai la belle vie. Hein. Ouais, j'ai déjà eu des apparts et tout. Mais après, à chaque fois, j'ai l'appel de la rue, tu sais. Non, sérieux, j'arrive pas à rester enfermé.
Ça dit tout et son contraire au milieu d'une foire d'aboiements de chiens. On entend ici un extrait d'une série documentaire de Claire Hauteur et de Samuel Hirsch diffusée sur Arte Radio et produite par Arte Radio. Peut-être évoquer la question du chien pour réarriver à la question du lien et de l'action. Que nous dit le fait de voir des chiens adoptés par ces jeunes dits en errance ?
Alors, il y a les fonctions classiques ultra connues du chien. Le chien, ça permet de faire la manche, le chien, ça protège, le chien, ça tient chaud, le chien, c'est un compagnon, etc., etc. Bon,
qui sont vrais.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais ça, c'est le. On est le premier pays au monde au nombre de chiens par habitant en France, on le sait par cœur, ça. Deuxième grand axe de raison, c'est que. Le chien, c'est un moyen de projection ou de revalorisation narcissique. Je sais m'occuper de mon chien. C'est la preuve que je suis quelqu'un de bien.
Il dit c'est mon enfant,
mon chien,
c'est mon
chien, c'est mon enfant, je m'occupe de mon enfant. Mon chien, il vivra pas ce que j'ai vécu, je suis capable de le soigner. Ça, c'est extrêmement important. C'est un moyen d'appui pour travailler avec ces jeunes. C'est la prise en compte de leurs compétences à être avec leur chien, à s'occuper du chien. Et puis... Puis un troisième aspect du chien qui est un aspect tout à fait, ce que j'allais dire, pas aussi positive, mais c'est pas positif-négatif, qui est toujours dans le paradoxe, c'est que si je suis en errance, et que, si je suis jeune en errance et que je prends un chien, oui, ça me construit mon identité, ça me permet d'être encore plus dans le groupe, mais d'autre part, ça m'exclut de plein de choses. Et je sais que prendre un chien, ça va m'exclure de plein de choses, ça va me créer plein de difficultés.
Comme
je ne peux pas aller en foyer, je ne peux pas aller en hébergement de nuit parce que j'ai mon chien, je ne peux pas aller à un rendez-vous parce que j'ai mon chien, je ne peux pas. Mais c'est mon chien et j'ai choisi de le prendre. Et puis, il y a une quatrième fonction des chiens. On a appelé ça avec quelques collègues la fonction anthropologique du chien. Les chiens, dans les groupes de jeunes, il y a des généalogies et des cousinages très clairs de chiens, et les jeunes les connaissent très bien. Un repérage familial dans la famille élargie chien. Et si j'ai un chien, moi, c'est jamais par hasard, parce que c'est un chien de la chienne et du chien de machin qu'ils m'ont donné, que j'ai eu en échange d'un service. Etc. Il y a tout un système, on peut dire, voilà, tout un système inscrit qui permet, je pense, aux jeunes de se repérer entre eux aussi et de se repérer en se refabriquant quelque chose de l'ordre d'une famille ou d'un système familial.
C'est comme une généalogie qui passerait par l'animal et qui serait par miroir rapportée à l'individu qui en manque.
Tout à fait.
Tout à l'heure, on a parlé d'errance de lien et vous avez évoqué toutes les portes d'entrée pour travailler, puisque évidemment, dans la littérature, il est question d'une catégorisation, d'une observation, d'une tentative de quelques noms pour pouvoir d'abord penser cette population. Ensuite, il est évidemment question pour vous d'agir pour et avec cette population. Quelles sont les portes d'entrée et quels sont les systèmes, les débrouillardises qui vous permettent de le faire ?
Alors, les portes d'entrée pour travailler avec cette population, c'est ou bien d'aller à la rencontre, ou bien d'ouvrir boutique pour qu'ils viennent, et pour qu'ils viennent s'asseoir, boire un café, trouver des sanitaires, une douche, une machine à laver, des choses de base comme ça. Ce qui permet tout doucement, très doucement, de créer de la confiance. Parce qu'il faut se dire que ces jeunes sont assez vaccinés vis-à-vis des psys et des travailleurs sociaux. Ils ne veulent plus en entendre parler pendant longtemps. Il faut réactiver la machine, il faut réactiver la confiance. Il faut s'engager soi pour ça. On ne peut pas être dans la distance professionnelle bien froide. Quand il y a de la confiance qui est là, on commence à parler de choses sérieuses. On commence à parler de maladies, de soins, de défonces, de choix de vie alternatives, d'un coup de main pour ouvrir un squat, de vraies choses sérieuses. Mais à ce moment-là, leurs demandes sont des vraies choses sérieuses qui n'entrent pas forcément dans les normes de l'offre sociale telle qu'on l'imagine. Ils demandent pas un logement, ils demandent pas un boulot, ils demandent une solution d'habiter alternative, un camion ou un petit job de 3 jours pour se faire un peu de fric, mais pas plus.
Et là, vous y allez ?
Ben, bien sûr. Bien sûr, avec des choses qui s'inventent, avec des jobs à la journée qui sont en train de s'inventer, avec payer immédiatement, avec des propositions d'hébergement, logement, sans autre projet à l'entrée en logement que j'en ai marre, il faut que je me pose. Une fois que tu seras en logement, on verra comment on va construire quelque chose. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Voilà, ça s'invente, ça existe actuellement.
Dans un chapitre de ce livre-là, Intervenir auprès des jeunes en errance, vous faites une sorte de liste de ce qui saute aux yeux physiquement. Vous parlez évidemment de l'atteinte de cette errance et de cette dérive sur le corps des jeunes gens que vous rencontrer. Déjà, depuis tout à l'heure, on parle de jeunes gens sans les sexuer, sans les genrer. Est-ce qu'il y a des corps de jeunes filles et des corps de jeunes femmes en même quantité dans ces lieux
oui.
qui accueillent ?
Alors, il y a des femmes parmi les garçons, bien sûr. Il y a 20 ans de ça, il y avait 15% de femmes. Aujourd'hui, il y a 40% de femmes. Je ne suis pas certain que ce soit un triomphe de la lutte des femmes. Le fait est qu'il y a 40% de femmes et des jeunes femmes. C'est sûrement beaucoup plus un effet d'inattention sociale, et c'est pas brillant pour nous, enfin pour l'ensemble de la société. L'errance, ça marque les corps, oui, bien sûr. L'errance, ça marque les corps, parce que la mauvaise bouffe, ça marque les corps, parce que la défonce, parce que l'hygiène corporelle ou la non-hygiène corporelle, parce que le manque de sommeil ou le sommeil précaire, ça n'arrange pas. Ça marque les corps, ça les fait vieillir, les corps. Et ce qui fait que souvent, quand un couple est constitué, le déclencheur à l'arrêt, c'est la fille qui dit « j'en peux plus ». J'en peux plus de cette vie-là, j'en peux plus de l'absence d'hygiène, j'en peux plus de la promiscuité, éventuellement aussi, mais c'est faut l'entendre parce que c'est beaucoup moins dit, mais c'est existant, j'en peux plus de payer mon loyer avec ce que j'ai. Parce qu'il y a ça aussi.
Avec ce que j'ai, c'est-à-dire ?
Avec mon cul. Hein.
Avec mon cul, d'accord, en se prostituant.
Non, c'est pas de la prostitution, c'est j'ai ma place dans le groupe en acceptant.
Quand
on n'est pas dans une prostitution au sens je me vends en contre-argent à un inconnu.
Je suis pas sûr que ça change grand-chose.
Voilà, bon, bien sûr, mais dans leur tête, si.
Quand vous dites que c'est la chose la plus visible presque quand vous les rencontrez, c'est aussi peut-être la chose à la fois la plus sociale mais la plus intime, le corps. Est-ce que vous répondez directement à ce que vous voyez ? Est-ce que l'une des premières réponses c'est une douche, c'est du soin ?
C'est s'ils veulent, faut le mettre à disposition. Un accueil de jour qui fonctionne bien, il y a une douche et tout le monde sait qu'on peut s'en servir. Et il y a des heures de consultation et de petits soins infirmiers et tout le monde sait qu'on peut y aller. Ils y vont ou pas.
Et alors c'est plutôt quoi ? C'est plutôt ils y vont ou plutôt ils y vont pas ?
Faut que ça vienne doucement. La douche, s'ils y vont. Le petit soin infirmier, ils y vont pour présenter des petits bobos. Et tout l'art du petit soin infirmier à ce moment-là, c'est surtout de ne pas toucher aux gros bobos qu'on renifle ou qu'on voit si on nous demande rien. Mais on va soigneusement s'occuper du petit boulot. Je dis souvent, moi, qu'un infirmier ou une infirmière qui fait un petit soin d'un lieu d'accueil de jour à un zonard, si c'est un bon professionnel, il va mettre trois quarts d'heure à faire un soin qui prend 2 minutes.
Éventuellement pour faire un appel d'air.
Il parlera de bien d'autres choses que du bobo en train de soigner. Alors, ceci étant, faut surtout pas croire qu'ils savent pas ce que c'est la bonne santé, le soin au corps. Ils le savent par leur chien. Ils le savent pour de multiples raisons aussi. Quand on voit comment ils fonctionnent avec le chien, ils savent ce que c'est une prescription médicale, l'observance d'un traitement, des signes cliniques à contrôler, etc., etc. Simplement, ils ne se l'appliquent pas à eux. Et ça, c'est une sacrée question. Ce qui renvoie à la question de la déprime, de l'estime de soi, et pas du tout à la question de la méconnaissance, où il faudra leur faire des cours de bonne santé pour qu'ils se lavent les dents. C'est pas vraiment le problème.
Et ce qui renvoie forcément à une question psychologique au tout début de
l'émission. Il y a une dimension psychologique.
On parlait d'une errance du lien et d'une errance et d'une souffrance, et vous avez dit ce mot-là, d'une très grande souffrance psychologique. Seulement, vous évoquez aussi à la fois les parcours un peu chahutés, chaotiques dans le système de prise en charge psychiatrique et psychologique dans l'adolescence, dans la petite enfance et dans les premières vies avec l'institution. Quand on est dans une possibilité d'action avec ces jeunes-là, jusqu'où peut-on, face à la manifeste nécessité de traiter psychologiquement, agir pour vos équipes?
Oui. Alors, il y a une dimension psychologique incontournable, mais il faut sans arrêt l'articuler à une dimension socio-sociale. Parce que ce sont des enfants de parents de milieu populaire, parce que ce sont des enfants de clubs dissociés. Il y a plein de choses qui ne sont pas de l'ordre de la psychologie, mais qui sont de l'ordre des appartenances sociales. Deuxièmement, psychologie, pour un certain nombre, pour beaucoup d'entre eux, ils veulent plus entendre parler des psys, ils en ont soupé des psys quand ils étaient placés. Et là aussi, il faut réalimenter la machine à confiance en leur faisant comprendre qu'un psy, ça peut servir à quelque chose. Mais il faut des psys qui jouent pas aux psys, il faut des psys qui savent faire du café, qui savent parler des chiens et qui font savoir qu'ils sont psys s'il y en a un peu besoin. Et puis, pour les professionnels de terrain, il faut s'autoriser à entendre la souffrance psy. Encore aujourd'hui, beaucoup, les éducateurs, les assistants sociaux qui sont dans des structures d'accueil, ont beaucoup de réticence à s'engager sur ce terrain-là en disant « on n'est pas psy ». Ils ont la trouille, ils estiment qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas formés. Donc, dès que des paroles intimes émergent, pouf, ils bloquent en aiguillant vers le psy. Ce qui n'est pas forcément la bonne solution. C'est beaucoup plus intéressant de laisser émerger les paroles intimes, de laisser sortir les premières verbalisations, parce que ça aide la personne à commencer à élaborer. Le fait de parler, ça aide à élaborer ce qu'on a en tête. Petit à petit, passer la main. Et de passer la main à un psy qu'on connaît, que l'individu connaît, faire le lien. Ça aussi, ça s'invente, ça aussi, ça se construit. Il y a des équipes qui intègrent des psys dans la proximité et on a la richesse aujourd'hui d'avoir des équipes mobiles psychiatrie précarité dans les villes, dans les grandes villes et villes moyennes, des équipes de psychiatrie publique qui font le lien avec les SDF et avec les structures d'accueil.
Vous parlez de d'inventions, ce sont des inventions qui évidemment mobilisent des humains et demandent du temps. C'est l'ingrédient premier et c'est l'ingrédient que vous érigez presque en valeur cardinale dans chacun de vos écrits. Est-ce que ces jeunes qui ne répondent à aucune des cases dont on imagine qu'elles sont insufflées et décrites par les ministères de la jeunesse, les ministères de la santé publique, comment mobiliser, là je parle en termes de ressources financières, les moyens que nécessitent des actions telles ? De telles actions.
Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a des moyens mobilisés dans la répartition des compétences entre les départements, les régions, l'État. L'État a la responsabilité des personnes sans domicile fixe de plus de 18 ans et des toxicos. Ça fonctionne. Il n'y a pas assez de moyens. Les moyens augmentent un petit à petit chaque année, mais la population cible augmente beaucoup plus. Donc, il y a toujours plus de moyens pour avec encore moins de moyens. Bon, il y a une inquiétude à avoir quand même, c'est que dans nos bonnes années actuelles ultralibérales de responsabilité individuelle, de voir arriver peut-être bien un travail social à deux vitesses, les gros moyens de l'action publique pour ceux qui sont insérables, qui montent pas de blanche, qui sont conformes, et puis pour les autres, eh ben ça va être l'assistanat, l'humanitaire, les restos du cœur et le téléthon social qui reste à inventer. Si, on a déjà les restos, un téléthon social, mais on peut faire encore mieux.
Ironiquement, vous dites ça.
Évidemment.
Quand vous disiez tout à l'heure, je dois accepter en tant qu'éducateur au sens très large du terme ou en tant que personne travaillant à cet accueil au sens très large du terme, que tel ou tel jeune ne réponde pas dans son désir à mon intégration, à ma vision d'intégration. C'est quand même un des chantiers, là peut-être sur le plan intellectuel et sur le plan de la formation des éducateurs, qui est à mener, non ?
Alors, accepter qu'il ne réponde pas à mon désir dans sa vision d'intégration, c'est intéressant à prendre en compte dans la façon de travailler avec la personne, ça évite de l'envahir. Ça n'empêche pas de lui proposer du désir ou des images, ça, c'est autre chose. Hein. Mais deuxièmement, il faut bien se dire que ces jeunes-là, massivement, c'est pas demain la veille qu'il y aura du boulot pour eux, tellement ils sont inemployables, alors qu'il y en a... Il y en a des millions qui cherchent du boulot et qui sont employables. Et c'est pas demain la veille qu'il y aura du logement pour eux tellement ils savent pas habiter. De toute façon, ces jeunes-là sont dans les rejetés des rejetés d'une croissance à venir et qu'on attend. Il n'y a pas de place pour eux. De toute façon. Il n'y a pas de place pour eux parce qu'encore aujourd'hui et sans doute encore demain, les dispositifs d'aide à l'insertion sont trop normalisés, sont trop tournés vers les grands nombres de jeunes qui ont besoin d'un coup de pouce pour que ça aille mieux, pour autant qu'on trouve du boulot derrière. Eux, ce n'est pas une question de coup de pouce, c'est une question d'années de travail, de revalorisation, de remise en confiance pour du réaccrochage.
À 16h54, c'est l'heure de glisser un poème sur les ondes jusqu'à vendredi. Nous feuilletons le recueil Rythme 1 et 2 de Charles Reznikoff, cet écrivain américain qui est mort à New York en juillet 1976. Et c'est Véronique Vella de la Comédie-Française qui nous en lit un extrait.
Cheveux et visage luisants d'une sueur d'août, la nuit, par d'étroites ruelles aveuglantes de lumière, des gens. Comme en procession funéraire, ou sous les vérandas des herbes folles en eau stagnante, ou aux fenêtres guettant le vent qui ne veut pas venir. Seulement, au matin, œil sans paupières, le soleil. Personne dans la rue, hormis le vent qui souffle, éclairage baissé derrière les vitres dépolies, étoiles comme d'un soleil brisé, pulvérisé. Je traversais le marais solitaire parmi les bouleaux blancs. Au-dessus des bouleaux, trois corneilles croassaient, croassaient. Les trompettes sonnent la guerre, les rues s'emplissent d'échos. Il tord ses mains trouées. Avançant dans un bois où jadis un déluge changea le sol en sable blanc et volatile. Et chaque arbre figure une croix difforme, lisse, blafard, privée de feuilles et d'écorce, le tout semblable aux vergues et aux mâts délabrés d'une flottille à l'encre depuis des siècles. Nul souffle n'atteint l'antre de ses morts. Depuis longtemps, les eaux ont déserté le lit de pierre. Pour lui, nul champ, nulle rue. Son chemin va au milieu de ses ossements, à travers ses sables blancs, tandis qu'il tord ses mains trouées.
François Chaubeau, c'est vous qui avez choisi d'entendre cette guitare, c'est laquelle ?
Ray Cooder, c'est extrait de son album Paris-Texas, Belle Dérive.
Belle Dérive celle-ci, voilà, on est parti de dérives un peu moins heureuses et on termine sur une dérive un peu plus heureuse, Les Nomades du Vide. François Chaubeau, c'est paru en poche aux éditions La Découverte et intervenir auprès des jeunes en errance, c'est aussi aux éditions de La Découverte, collection alternative sociale. Merci infiniment d'avoir été avec nous cet après-midi. Pour écouter cette émission, le site franceculture.fr vous sera d'un parfait secours. Vous pouvez vous y abonner au podcast. L'émission s'appelle « Pas la peine de crier ». Vous pouvez aussi choisir les petits bouts qui la composent, le poème du jour, le Polaroid et « Je déballe ma bibliothèque ». Pour nous écrire, le formulaire fonctionne parfaitement sur la page de l'émission. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous signons collectivement @paslapeine2. Aux manettes aujourd'hui, c'était Alexandre Dang. Merci à Marie Placet, Béatrice Leca et Céline Geoffroy pour le poème du jour. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron, Romain Debec de Lièvre et Claire Rivière qui ont pensé et préparé cette émission avec moi. Une émission réalisée par Anne-Laure Chanel.